D'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il est l'un des rares alliés de Poutine en Europe. Viktor Orban remporte largement les élections en Hongrie. Malgré la guerre aux portes de son pays, le Premier ministre nationaliste reconduit pour un quatrième mandat. Nous sommes à Budapest alors que les condamnations pleuvent sur la Russie après les macabres découvertes du week-end près de Kiev. À 6 jours du premier tour de la présidentielle, avez-vous reçu les programmes des candidats après le fiasco des régionales l'an dernier? La Poste a récupéré toute la distribution de la propagande électorale. Reportage dans les coulisses. Ce n'est pas le moment de faire tourner une machine. Les Français sont appelés ce matin à réduire leur consommation électrique en pleine vague de froid. Et puis une expérimentation pour dépister le cancer du poumon chez les femmes de plus en plus touchées.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50 aujourd'hui, deux joueurs stars du 15 de France et du Stade Toulousain. Antoine Dupont, Romain Ntamack pour le film Le Stade. En salle le 13 avril.
France Inter.
Depuis le début de la guerre, Alexis, il a toujours refusé de choisir entre l'Ukraine et la Russie.
Les adversaires de Viktor Orban pensaient que sa proximité avec Poutine et son refus de livrer des armes aux Ukrainiens lui causeraient du tort. Il n'en est rien. Le Premier ministre hongrois est triomphalement reconduit à la tête de son pays en remportant les législatives pour la 4e fois d'affilée. 53% des voix, 2/3 des sièges contre seulement 35% pour l'opposition. Le dirigeant conservateur a déjoué tous les pronostics. Louise Baudet est à Budapest pour France Inter.
Accueilli dans une ambiance de stade de foot, Viktor Orban savoure sa victoire.
C'est une victoire si énorme qu'on peut sans doute la voir depuis la Lune, et en tout cas certainement depuis Bruxelles.
Il parle beaucoup de ses ennemis, Viktor Orban. L'Europe, George Soros, les médias internationaux, le président ukrainien Zelensky et bien sûr l'opposition.
C'est quand ils sont unis contre nous qu'on remporte la plus large victoire.
Une opposition dangereuse a martelé Viktor Orban pendant la campagne.
Je suis soulagé parce que le danger que représentait la gauche est écarté pour 4 ans de plus.
Toute autre ambiance évidemment dans le camp adverse.
Je suis très triste. Je n'aurais jamais imaginé qu'autant de gens puissent voter Fidesz.
Défait dans sa propre circonscription, Peter Markizaj est comme sonné, sa fille derrière lui a les larmes aux yeux.
Je ne vais pas cacher ma déception, même si on savait que le combat serait inégal.
Combat contre une machine médiatique aux ordres et contre les mensonges du Fidesz.
On n'a fait aucune erreur, mais le résultat montre qu'après 12 ans de lavage de cerveau, Orban peut gagner n'importe quelle élection.
La solution, je ne l'ai pas encore, concède Peter Markizaj, bien seul dans la défaite. Pas un chef de parti ne l'a rejoint à la tribune. Preuve qu'entre alliés d'hier, l'heure des comptes a commencé. Budapest, Louise Baudet, France Inter.
Lui aussi entretient l'ambiguïté sur ses liens avec la Russie. Le président serbe Aleksandar Vučić, candidat à sa réélection, revendique ce matin une large victoire dès le premier tour de la présidentielle. La Russie, pourtant cible de toutes les condamnations occidentales et peut-être bientôt de nouvelles sanctions. Après les images et les témoignages insoutenables du week-end, ces nombreux cadavres de civils dans les rues de Boutcha, près de Kiev, après le retrait des troupes russes, les autorités ukrainiennes parlent d'au moins 400 corps découverts dans cette région. À Washington, Paris, Londres, Madrid, on réclame des enquêtes face à ce que l'ONU qualifie de possible crime de guerre. De son côté, Moscou nie fermement et dénonce une manipulation ukrainienne. Les Russes ont quitté les faubourgs de Kiev pour se concentrer sur l'est et le sud de l'Ukraine. Là-bas, les combats se poursuivent. Nous partons ce matin pour Kharkiv, où une nouvelle frappe a fait ces dernières heures au moins 7 morts. Malgré le risque, certains habitants choisissent de rester. Il raconte au micro d'Étienne Monin et Gilles Gallinaro.
Il y avait de la fumée partout ici. Cet immeuble est orienté au nord, du mauvais côté.
Ce qu'explique Olga Federova depuis la cuisine d'un appartement au 9e étage, c'est que cet immeuble et ce quartier sont dans la ligne de mire de l'armée russe.
Là-bas, il y a le village de Tsirkouni qui est occupé. Les Russes nous visent avec des roquettes depuis là-bas.
Ce quartier s'appelle Saltivka. C'est un très grand alignement d'immeubles, devenu une zone fantôme, l'endroit le plus dangereux de la ville.
C'est une catastrophe humanitaire.
Tatiana vit avec sa mère, elles sont au quatrième étage. Leur immeuble est presque vide, il ne reste que 6 familles.
Ma mère a 77 ans. Elle ne peut pas descendre au bas de l'immeuble. Alors vous imaginez, aller se réfugier dans le métro.
Pavel vit aussi dans ce décor de fin du monde, malgré la guerre et les conditions matérielles.
Ceux qui sont partis, ce sont ceux qui vivent en haut, dans les étages élevés. Moi, je m'en fiche. Quand c'est votre heure, c'est votre heure.
Ceux qui sont toujours dans Kharkiv aujourd'hui sont soit les plus démunis, soit ceux qui considèrent que rester est un acte de résistance. Kharkiv, Gilles Gallinaro, Étienne Moulin, France Inter.
Et c'est dans ce contexte que les négociations russo-ukrainiennes sont censées reprendre aujourd'hui en visioconférence.
Il est 7h35 en France, Alexis. Dernier jour pour convaincre.
Avant le premier tour de la présidentielle, sous la menace d'une abstention record, un électeur sur trois pourrait ne pas se rendre aux urnes dimanche, selon l'enquête Ipsos Soprasteria pour France Inter. On y revient en détail à 8h. Face à ce risque d'abstention, c'est le retour du débat sur le vote blanc. Jean Lassalle propose de le comptabiliser comme un suffrage exprimé et donc d'invalider l'élection si le vote blanc arrive en tête. Ce serait un signal fort pour que les citoyens reprennent conscience de leur pouvoir, selon le candidat qui était hier soir en meeting chez lui à Pau. Signe que l'échéance approche, les professions de foi des 12 prétendants à l'Élysée arrivent en ce moment dans les boîtes aux lettres. Cette année, toute la distribution est assurée par la Poste après les gros ratés l'an dernier d'un prestataire concurrent pour les élections régionales. Près de la moitié des électeurs à l'époque n'avaient pas reçu les programmes à temps. Alors Rémi Brancato, est-ce que ça se passe mieux cette fois-ci?
Au centre de tri de Carcassonne, les programmes des candidats sont déjà regroupés, répartis par tournée et très attendus dans la commune de Lavalette où Sébastien Vesantini distribue les plis.
Il y a des personnes âgées qui n'ont pas internet et qui attendent ça pour faire leur choix. J'ai eu des gens qui m'attendent devant la porte pour avoir les professions de fond. Je leur dis il faut patienter encore un peu le temps que ça se prépare et tout.
Le facteur 20 ans de carrière connaît l'importance de ces enveloppes pour les habitants.
Il y a des personnes âgées qui attendent que j'essaye de leur choisir le candidat, de leur faire une synthèse sur les programmes. Et moi, je ne peux pas les aider.
Pour la présidentielle, la Poste est seule à distribuer la propagande électorale. Elle récupère les zones attribuées l'an passé au prestataire Adrexo qui n'avait pas livré tous les électeurs.
Moi, je ne souhaite pas commenter les déboires de notre concurrent.
Fabrice Ferré, directeur des opérations du groupe La Poste.
Je suis très heureux et très fier que le professionnalisme de nos 65 000 facteurs ait été reconnu. On participe activement à la vie de la démocratie.
Pas de pression, dit-il, mais une vigilance particulière. 49 millions d'électeurs sont concernés, autant de mises sous pli dans les préfectures.
Nous avons, rien que sur le premier tour, affrété 1200 liaisons supplémentaires, des camions en fait, pour aller chercher les plis auprès des préfectures. Nous pouvons être amenés à embaucher du personnel supplémentaire.
Des recrutements envisagés pour le second tour seulement, avec une obligation, distribuer les programmes au plus tard le samedi, la veille du scrutin.
Rémi Brancato, du harcèlement entre ados qui conduit au drame. C'était le 8 mars 2021 à Argenteuil. Alisha, 14 ans, tombe dans un guet-apens tendu par deux camarades. Elle est frappée violemment puis jetée vivante dans la Seine avant de mourir noyée. Les deux mises en cause, un garçon et une fille de 15 ans, sont jugés à partir d'aujourd'hui. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Des nouvelles gelées cette nuit de l'Alsace aux Pyrénées et la crainte de grosses pertes pour les agriculteurs. Le Premier ministre promet de mobiliser le dispositif de calamités agricoles dès cette semaine et l'ouverture si nécessaire d'un fonds d'urgence. Face à cette vague tardive de froid, nous sommes aussi tous appelés ce matin à réduire notre consommation électrique, au moins jusqu'à 10 heures. RTE, le gestionnaire du réseau, parle de situations tendues, comme l'explique Jean-Paul Roubin, son directeur d'exploitation.
Les températures seront aussi froides que celles que l'on observe depuis vendredi, c'est-à-dire de 5 à 6 degrés sous les normales de saison en moyenne. Et ça, ça introduit, implique une augmentation de la consommation française d'électricité sous l'effet en particulier du chauffage électrique. Le deuxième point, c'est que on a une faible disponibilité de la production française d'électricité. On a sur les 56 réacteurs, par exemple, nucléaires qui existent en France, il y en a 27 qui sont à l'arrêt pour des raisons de maintenance actuellement. C'est-à-dire qu'on a une consommation plus forte que la production disponible en France. Si jamais on devait importer beaucoup et que ce n'est pas possible depuis l'étranger, eh bien on se retrouverait face à une difficulté.
Mais RTE ne s'attend pas pour autant à des coupures d'électricité ce matin. Réduire notre consommation et notre empreinte carbone à long terme aussi, le GIEC, qui réunit les experts climat de l'ONU, va proposer ce matin des solutions dans son dernier rapport, solutions pour limiter l'impact humain sur le changement climatique. Ces scénarios n'ont apparemment pas fait consensus. Les négociations pour le texte final se sont achevées tard hier soir avec deux jours de retard. retard. Dépister systématiquement le cancer du poumon, comme c'est déjà le cas pour les cancers du sein ou du côlon, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert en février à des expérimentations. Et bien, quelques semaines plus tard, la PHP lance la sienne et elle cible uniquement les femmes, car contrairement aux idées reçues, elles sont aussi touchées de plus en plus, d'où cette étude Anorenstein baptisée Cascade.
Le cancer du poumon, ce n'est plus une maladie d'homme, rappelle en préambule le professeur Marie-Pierre Revel, chef de service de radiologie à l'hôpital Cochin. C'est elle qui supervise l'étude Cascade.
En France et en Espagne particulièrement, il y a une augmentation d'incidence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an qui est très préoccupante. Ça va devenir première cause de mortalité par cancer chez les femmes.
Et pourtant, avec un dépistage précoce, le risque de décès serait nettement diminué. L'étude Cascade est donc à la recherche de 2400 fumeuses ou ex-fumeuses de 50 à 74 ans. Pendant 2 ans, elles seront suivies par un pneumologue avec 3 scanners à faible dose de rayon. Cela devrait permettre de détecter les toutes petites tumeurs débutantes qui ne provoquent pas encore de symptômes et qui sont facilement opérables. Une proposition vraiment gagnante pour toutes, promet le professeur Marie-Pierre Revel.
Il ne faut pas se sentir ni honteux, ni culpabilisé d'avoir fumé ou d'être encore fumeuse. C'est vraiment une démarche qui peut sauver des vies. Je suis moi-même bénéficiaire du dépistage parce que j'ai été opérée d'un petit cancer du poumon en 2019.
Aux États-Unis, l'augmentation de la détection précoce du cancer du poumon depuis 8 temps à sauver plus de 10 000 vies.
Anne Orenstein.
Il est 7h40, Kylian Mbappé fait durer le suspense sur son avenir.
L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, encore magistral hier soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1. 2 buts, 3 passes décisives pour une victoire parisienne 5-1 face à Lorient. Mbappé fait du bien au club de la capitale après le passage à vide du PSG ces dernières semaines. De quoi relancer les spéculations ? Va-t-il rester ou partir à la fin de la saison ? Rien n'est encore tranché, affirme Mbappé.
Tout le monde sait que j'ai pas fait mon choix, j'ai pas pris ma décision. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, il y a plein de choses, plein de paramètres et j'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Après, je sais que pour les gens ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dis. J'ai de compte à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je viens, je le dis et je l'assume.
Kylian Mbappé au micro d'Amazon Prime à l'issue de cette 30e journée de Ligue 1 au classement. Le PSG conforte donc son avance avec 12 points de plus que son dauphin, l'OM.
Merci Alexis Morel. L'édito politique est à suivre sur